Bienvenue à ce premier discours de la retraite. Même si beaucoup d'entre vous familiers avec mon style d'enseignement, mon approche et tout ça, j'aimerais bien pour cette première soirée reprendre un petit peu les bases et peut-être il va y avoir des petites pièces qui vont se rajouter dessus et qui vont solidifier un petit peu votre compréhension. Donc il y a des choses probablement que vous avez déjà entendu. Et c'est intéressant à chaque fois de se poser la question de comment on approche ça. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on entend des choses qu'on a déjà entendues, peut-être plusieurs fois, maintes fois. Et de voir s'il y a moyen de rester curieux, ouvert, voir si on peut y entendre encore quelque chose, comme si ça pouvait faire revivre encore quelque chose. Peut-être il y a certaines idées qu'on a entendues il y a des années, et quand on les a entendus vraiment, wow, là, ça nous a fait quelque chose, ça nous a touché en profondeur. Et puis après, ces idées sont revenues encore et encore, et à un moment, bon, ça, on sait, on connaît. Mais parfois, on peut remarquer aussi que, et il y a des gens parfois qui me disent qu'ils ont entendu des choses pendant très longtemps, et un jour, à la manière dont ils l'entendent, wow, c'est comme si c'est entendu à un autre niveau. Voilà, donc chercher à avoir ce type d'écoute qui permet d'entendre peut-être un niveau plus profond. Je vais parler de la méditation, je vais parler de la méditation allongée, et j'aimerais bien explorer deux axes qu'on trouve dans la méditation et qu'on trouve très certainement dans la méditation allongée, et qui a un axe qui est la connaissance et un axe qui est l'abandon ou le lâcher prise. Le laisser être. Et qui sont deux dynamiques qui s'articulent ensemble, mais qui pourtant sont très différentes l'une de l'autre. Et qu'on peut retrouver dans toutes les postures et dans toutes les attentions de méditation. Quand j'ai commencé à préparer le discours et que j'ai eu envie d'explorer ces deux axes, m'est venue cette phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux de Socrate. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et donc là, il y a clairement une injonction, une proposition de connaissance de soi. Et cette proposition de connaissance de soi, on la retrouve dans beaucoup de parcours philosophiques, ou spirituels. Les deux se mélangent souvent, mais pas toujours. Et notamment, on la retrouve, j'ai un texte ici. Un passage que je vais vous lire de David Hume, qui est un philosophe écossais, et donc où on sent bien cet esprit d'enquête, en fait, cet esprit de recherche. Donc il dit, lorsque j'entre le plus intimement possible dans ce que j'appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière, ou une autre, de la chaleur ou du froid, de la lumière ou de l'ombre, de l'amour ou de la haine, de la douleur ou du plaisir. Je ne m'attrape jamais à aucun moment sans perception. Et je ne peux rien observer d'autre que la perception. La douleur et le plaisir, le chagrin et la joie, les passions et les sensations se succèdent et n'existent jamais en même temps. Ce ne peut donc être de l'une de ces impressions ni d'aucune autre, que l'idée du soi soit dérivée. Et par conséquent, une telle idée n'existe pas. Là, il arrive à une conclusion par rapport. Donc là, on sent bien, en fait, dans son petit développement ici, qu'il y a une pratique, on pourrait dire, de méditation, puisqu'il parle quand j'entre en moi-même, je ne m'attrape jamais sans une perception. Je fais toujours l'expérience de moi-même à travers une perception. Donc là, on sent cet esprit d'enquête, et c'est cet esprit d'enquête qui mène à une connaissance de soi. Sans cet esprit d'enquête, sans ce genre de questionnement, sans ces remises en question, il n'y aura pas vraiment un chemin vers une plus grande connaissance de soi. Il n'y aura pas ce connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Il y a la nécessité d'un questionnement et d'une démarche de recherche. Et la méditation, dans ma manière de la pratiquer et de la comprendre, est un contexte idéal pour l'introspection, le regard intérieur, trouver, observer, voir, comprendre, chercher. Il y a toute cette dynamique. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand par exemple, Chris, quand tu disais dans les retours que tu avais une grande aspiration qui venait et que tu pensais que c'était peut-être à un moment où une pensée s'arrête. Voilà, ça c'est des thèmes de recherche, c'est des choses qui sont vues, constatées, ou c'est des choses qu'on imagine, tiens, ça serait peut-être bien quand une pensée s'arrête, qu'il y a un grand inspire qui se prend chez moi. Il me semble constater ça. Et du coup, on peut essayer de le réaliser, on peut essayer de l'observer. La méditation est propice pour ça. Ou c'était toi, Menuka, qui disait qu'il y avait, tu avais la sensation qu'il y avait tout un tas de pensées et d'images, et que au moment où tu revenais, tu n'arrivais plus à t'en rappeler. C'est toi qui disais ça, Menuka? Non? C'était toi, d'accord. Et donc, ça aussi, ça montre, en fait, on constate des choses. On constate, voilà, là, tu constatais quelque chose. Et c'est ce chemin de constat, qui peut amener la connaissance de soi, qui amène à, d'après Socrate, la connaissance de l'univers et des dieux, de notre relation à l'univers et aux dieux. Quoi que ce soit que ça veuille dire. C'est en suivant ces fils-là, c'est en suivant ces pistes-là. Chaque chose vue est un fil qu'on peut tirer plus loin, plus en profondeur. Dans les traditions que j'ai un peu explorées, donc principalement le bouddhisme et l'hindouisme, et un petit peu le plus récemment le soufisme, revient toujours cette notion, en fait, que le problème humain, la perte de sens, la souffrance, vient toujours d'un manque de connaissance, d'une incompréhension, d'un manque de contact direct et de perception directe avec ce qu'on est vraiment. Dans le bouddhisme, ça se traduit par donc c'est l'ignorance qui crée la souffrance. Voilà, ça c'est un peu le socle quelque part de toute l'exploration de Bouddha. C'est l'ignorance crée la souffrance. En fait, l'ignorance crée l'illusion et l'illusion crée la souffrance. L'ignorance crée une illusion de connaissance. C'est en sciences cognitives, j'ai écouté un podcast de Albert Mukeber qui expliquait ça, l'illusion de connaissance. En fait, et donc il expliquait que on a énormément de lacunes dans nos perceptions et dans nos connaissances. Mais on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient, notamment parce que les endroits qui sont vides, où on n'a aucune connaissance, aucune perception directe, on les remplit avec notre imagination d'histoires. On fabrique des histoires pour combler tous les trous. Et ces histoires sont plus ou moins efficaces, plus ou moins utiles, et créer plus ou moins de bonheur, et créer plus ou moins de souffrance. Voilà, donc l'ignorance, le fait de ne pas savoir, on n'arrive pas, en fait, c'est super dur, d'imaginer, c'est même impossible, je pense, d'imaginer l'ampleur de ce qu'on ignore. On vit comme si on avait une certaine connaissance, et en fonction de cette connaissance, on prend nos décisions, et on évolue, et on bouge dans la vie. Et c'est cette attitude, ce fait de croire qu'on sait qui crée énormément de tensions de nous à nous et de nous aux autres et au monde. Voilà, ça c'est un peu la théorie qu'on va retrouver dans ces trois traditions que je citais. Alors en méditation, par exemple en méditation allongée, quand il y a un moment où je ne suis plus conscient, et puis que je reviens à la conscience, À ce moment-là, j'essaie de me rappeler où j'étais juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que je sois conscient? Où est-ce que j'étais? C'était quoi l'expérience? Est-ce qu'il y avait une expérience? Oui, des questionnements comme ça. Ça, c'est la partie recherche. Et c'est important d'avoir, je pense, pour une pratique de méditation qui évolue sainement, je pense, c'est important d'avoir des bonnes questions, de trouver des bonnes questions et de suivre des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est principalement, il faut déjà qu'elles nous parlent, ces questions. Ça peut être, c'est quoi une pensée? C'est quoi une pensée? On a tellement l'habitude d'avoir des pensées tout le temps que c'est une question qu'on ne se poserait pas forcément. Est-ce qu'on pense plutôt avec des mots ou avec des images? Est-ce que parfois on pense avec des mots, parfois avec des images? Est-ce que parfois ça se mélange? C'est des questions qu'on peut avoir, ça. On peut enquêter du côté de quelle est la relation entre... c'est quoi être distrait en fait? C'est quoi qui est distrait? Hein, ça peut être une autre bonne question à suivre. Ça, en elle-même, c'est un chantier qui peut prendre des années à vie. C'est quoi qui est distrait? C'est quoi être distrait? C'est quoi être présent? Comment je sais que je suis présent? Ça se sent comment? Ça fait quoi dans le corps d'être présent? Il se passe quoi dans le corps quand je suis présent? Tout ça, c'est des questions, en fait. C'est des questions qui vont générer de l'intérêt et de la curiosité et qui, du coup, vont amener le regard en profondeur. Et ces questions vont toujours nous mener vers des questions identitaires, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de cultures autour du thème qui suis-je? Quelle est mon essence? Quelle est mon identité profonde? Profonde. Donc, par exemple, quand je suis allongé en méditation et à ce moment-là, il y a des pensées qui viennent. Qui pense? C'est ça la question qui suis-je. Qui pense? Et si cette question nous vient à l'esprit, à ce moment-là, notre expérience va être différente. La manière de penser, il va se passer quelque chose en nous qui fait qu'on n'est plus au même plan. Dès qu'on va se dire qui pense, on va avoir plus la sensation de nous-mêmes et on va être un peu moins pris par la pensée. Il va y avoir un détachement de la pensée. Qui pense? Qui observe? Quand il y a un moment d'observation, comme tu le disais, Cécile, à un moment, qui observe? Où on parlait de la respiration et de vraiment s'intéresser à comment l'activité mentale impacte la respiration. Sa sensation de solidité ou de fluidité, sa vitesse, son ralentissement, peut-être là où elle se passe dans le corps. C'est aussi ça, un questionnement qu'on peut pousser assez loin. Tout ça pour arriver à intéresser l'esprit à notre expérience, à ce que l'attention se porte sur notre expérience de manière à acquérir de la connaissance, de manière à se libérer de la méconnaissance, de l'illusion. Ces questions-là, c'est pas forcément une question qu'on attrape comme ça en début de retraite et puis on se dit je vais me poser celle-là et ça va être le thème de ma retraite. Ça pourrait, mais il faut quand même qu'elles soient déjà ancrées en nous. C'est des questions qui s'ancrent peu à peu en nous. C'est des questions qui prennent leur place avec et notamment peut-être celle qui va nous mener le plus loin, la question qui suis-je. C'est une question qui met des années, en tout cas dans mon cas, que je ne comprenais absolument pas au départ. Je ne comprenais pas comment me poser cette question. C'est pour moi tellement une évidence de qui j'étais que vous ne comprenez pas comment manipuler en fait cette interrogation. Mais quand une question est bien comprise, c'est Confucius qui disait je ne cherche pas à répondre à mes questions, je cherche à les comprendre. Je crois. Quand une question est bien comprise, alors elle travaille. Elle fait du travail. Quand une question est bien comprise, ça veut dire que c'est une question qu'on se pose vraiment. C'est pas quelque chose qu'on a entendu et qu'on se dit c'est vrai, là il y a quelque chose et tout ça, c'est le point de départ. Mais quand vraiment il y a un truc où on sait qu'on ne sait pas et qu'on voudrait savoir, là la question elle fait du travail. Quand on a déjà éloigné de nous toutes des croyances de connaissances, tout un tas de croyances de connaissances, de croire qu'on sait, et qu'on a suffisamment de curiosité, alors cette curiosité, elle est active. Elle porte notre regard. Elle porte notre regard en nous, mais elle porte notre regard à tout moment. S'il y a cette question qui suis-je qui est là constamment, elle va revenir et elle va changer notre attitude et elle va créer une manière d'être dans l'action, dans le mouvement, dans notre quotidien et bien sûr dans notre méditation. Dans la Bible, je pense qu'il y a cette phrase demande et tu recevras, frappe et la porte s'ouvrira. Il y a vraiment cette démarche active de demander, de se poser des questions, de s'interroger. Et quand vraiment on a ce type de curiosité, alors plus elle est dense en fait, cette curiosité, plus c'est important pour nous en fait, plus il va y avoir des choses qui vont venir sur notre chemin pour nous informer. On va tomber sur des livres, forcément. On va les voir, les livres. Sinon, ils seraient passés, mais on les aurait pas vus si on n'avait pas cette question. Mais là, on va tomber sur des livres, on va peut-être rencontrer un enseignant, ou on va trouver une tradition dans laquelle justement c'est de ça qu'on parle, où il va y avoir des compréhensions qui vont nous venir comme ça, out of the blue, de nulle part. Hop. Parce que la question, elle est là et elle travaille en arrière-plan. Et hop, subitement, là, tiens, on a compris quelque chose. Où une situation va se produire et elle va nous donner, c'est comme si on comprenait quelque chose grâce à cette situation, parce que la question se pose en nous. Une fois que la question se pose en nous, elle est toujours dans le fond, quelque part, en train de faire du travail. Un peu le même processus, mais beaucoup plus vaste, mais un peu le même processus, on pourrait dire que quand on cherche le titre d'un bouquin et qu'on ne le trouve pas, et qu'on cherche, on cherche, on cherche, et puis à un moment on arrête de chercher, et c'est un quart d'heure ou une heure après que hop, le titre il vient. Il y a quelque chose qui continue à travailler alors qu'on n'était plus activement en train de chercher. Pareil quand on a des questions profondes. Pareil quand on a vraiment, on s'engage vraiment dans une recherche de connaissance de soi, une recherche de connaissance. Ça met une dynamique en place qui, elle, travaille quand on n'y travaille pas. Et c'est là, du coup, que, en méditation, on peut s'allonger, et on s'allonge avec cette question, et même si elle est comme un feu qui brûle, il n'y a même plus vraiment besoin de se rappeler la question, de se la reformuler, parce que dans la vie, c'est ça qu'on cherche. Et là, on laisse la place. Ça fonctionne comme ça, bien sûr, aussi dans la méditation assise et dans les autres postures. Mais dans les autres postures, on a d'autres manières de faire aussi. Dans les autres postures, dans la posture assise, par exemple, on prend le contrôle de notre attention et on la porte là où on a décidé qu'elle devait être. On essaye de l'y maintenir et quand elle s'en va, on la ramène à cet endroit-là. C'est absolument magnifique, mais c'est autre chose. C'est autre chose que ce que je viens de décrire, de s'allonger avec une question et de laisser les réponses venir. C'est une manière active de diriger notre attention pour faire contact avec la respiration, pour faire l'expérience d'un esprit plus silencieux. Toujours pour dans une démarche de connaissance. Mais là, il y a une J'ai envie de dire, il y a une stratégie, il y a une technique. Ici, dans la méditation allongée, c'est pas qu'il n'y a pas une stratégie, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment une technique. C'est ce qui en nous est chercheur qui va trouver le contexte pour chercher dans la méditation allongée. qui va trouver suffisamment d'espace pour pouvoir nous emmener ailleurs que là où nous, on aurait décidé d'aller avec notre pratique. Donc vous pratiquez la méditation, vous avez peut-être, suivant les traditions, suivant comment vous êtes venu à la méditation, vous avez des styles. On a des manières de faire avec notre attention. Ici, il n'y a pas vraiment un style. C'est lâcher ça. C'est lâcher le style. C'est laisser ce qui nous a amené ici, ce qui nous a amené à être ensemble là aujourd'hui, faire son travail. Quelque chose nous pousse dedans à chercher. Je vous lis la suite en fait de David Hume sur le même passage. Donc il en vient à constater sa conclusion, et je lui laisse sa conclusion, mais sa conclusion est que le soi, d'identité individuelle n'existe pas. Je lisais là. La douleur et le plaisir, le chagrin et la joie, les passions et les sensations se succèdent et n'existent jamais en même temps. Ce ne peut donc être de l'une de ces impressions, ni d'aucune autre, que l'idée du soi dérive. Est dérivée. La traduction est un peu bizarre. Et par conséquent, une telle idée n'existe pas. Le soi. On retrouve là aussi, ça s'approche aussi de certaines théories dans le bouddhisme. Cette vérité est-elle déprimante? Certains le trouveront peut-être, mais je trouve cela libérateur et consolant. Quand j'ai cru que mon existence était un fait supplémentaire, donc il y a déjà toutes les perceptions, et il y a l'idée de mon existence, qui est un fait supplémentaire. Sinon, dans les faits, il n'y a que des perceptions, d'après eux. Quand j'ai cru que mon existence était un fait supplémentaire, il m'a semblé que j'étais emprisonné en moi. Ma vie ressemblait à un tunnel de verre à travers lequel je me déplaçais plus vite chaque année et au bout duquel il y avait de l'obscurité. Quand j'ai changé de point de vue, ça c'est intéressant, quand j'ai changé de point de vue, on y reviendra plus tard. Quand j'ai changé de point de vue, les murs de mon tunnel de verre ont disparu. Je vis maintenant en plein air. Il y a toujours une différence entre ma vie et celle des autres, mais la différence est moindre. Les autres personnes sont plus proches. Je suis moins préoccupé par le reste de ma propre vie et plus préoccupé par la vie des autres. Donc il parle de nouveau de ce processus de connaissance de soi qui est libérateur. Dans une tradition très très différente de celle que j'ai citée, il arrive à cette constatation qu'à force d'observation et de réflexion, et de générer de la compréhension et des manières de voir, il trouve une manière de voir et de s'envisager qui est très différente de celle qu'il avait avant et qui ouvre. Mais ça ne me mène pas du tout là où je voulais aller. Donc on y reviendra dans un autre discours à cet aspect des manières de voir. Peut-être quand même, si dans ce qu'on peut entendre de ce que dit David Hume, on sent en fait qu'il y a une ouverture de cette connaissance de soi est née une ouverture, une aisance. Et là, cette notion de tunnel de verre et de l'obscurité au bout et de la vie qui s'accélère et tout ça, quelque chose qui se relaxe. Et donc là, à cet endroit-là, on voit que cette connaissance de lui-même mène moins de souffrance. Et plus de confiance dans le sens où il y a besoin de moins se préoccuper de soi-même et ça le permet de se sentir beaucoup plus proche des autres. Et cette confiance, on en a besoin pour pouvoir lâcher. Donc en méditation allongée, je disais, il y a ces deux dynamiques, il y a cette dynamique de curiosité et d'exploration et il y a une dynamique qui est de vraiment lâcher. De même lâcher la notion d'exploration. De ne pas tout le temps être un explorateur dans sa méditation allongée. Il y a aussi la posture de juste laisser être. C'est comme deux approches dans la même méditation. C'est comme ça que je la pratique, moi, la méditation allongée. Je pratique ces deux approches. Grande curiosité, comme je parlais du Père Noël, c'est essayer de voir le Père Noël juste au moment où la conscience revient. C'est quoi qui revient? C'était où juste avant que ça revienne? Ça veut dire quoi revenir? Voilà, il y a tout ça. C'est essayer de regarder par le trou de la serrure et essayer de voir le moment où il sort de la cheminée. Mais il y a aussi, dans l'attitude que je cultive, une totale confiance dans le fait que, en moi, ce que je cherche, me cherche. Et que je peux laisser faire. Ce que je cherche, c'est ça qui m'a amené ici aujourd'hui. Et dans mon ignorance, je pourrais croire que la totalité des raisons qui font que je sois ici ont dépendu de moi. Mais ça, c'est bien l'histoire construite, l'histoire illusoire. Il y a ce pressentiment et cette sensation qui se confirme par l'exploration, qu'une vaste partie de moi-même échappe complètement à cette idée étriquée que j'ai de moi. Et que cette vaste partie de moi-même, c'est elle qui a toujours été là depuis ma naissance pour m'apprendre à marcher ou pour réparer mes petites plaies, mes petits bobos. Et qu'en fait, il y a quelque chose d'une profonde intelligence qui est moi, qui m'habite. Et la méditation allongée, c'est se reposer là-dessus. Parce que c'est ça qui cherche et c'est ça que je cherche. C'est la même chose. C'est ça le mouvement de la méditation. C'est ça le mouvement de venir ici faire une retraite. C'est parce que quelque chose cherche, quelque chose me cherche, quelque chose se cherche. Le langage, là, il est compliqué. C'est cette dualité qui nous complique la vie. Et donc, c'est vraiment lâcher. Faire confiance à ça. Ça peut être invoqué. Nos questions profondes invoquent, appellent. Appelle cette intelligence à prendre le contrôle. C'est-à-dire que nous, on lâche le contrôle. Très différent de ce qu'on fait dans la posture allongée souvent, où on redirige notre attention et on détermine où elle doit se trouver. Là, on laisse l'attention aller où elle veut. Cette intelligence, pour moi, elle est vraiment en lien justement avec l'attention et ses mouvements, et ce qu'elle fait, et ce qu'elle est, et sa nature. Et donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est parce que dans toi-même, il y a l'univers et les dieux. Et c'est pas, une fois que tu te connaîtras toi-même, alors viendront en toi l'univers et les dieux. C'est pas qu'il faut arriver à cette connaissance pour que ça soit déjà là. Et donc, c'est l'autre aspect, il y a l'aspect curiosité, il y a l'aspect je suis chercheur, et il y a l'aspect je me laisse trouver. Je fais confiance, je reste ouvert, et quelle que soit l'expérience, je laisse aller, je laisse être. Et si c'est du sommeil, dans la méditation allongée, bien sûr, on a moins de contrôle, donc la posture, on est complètement porté par le sol, il n'y a plus de tenue du corps, et donc bien souvent, c'est du sommeil qui va venir. Eh ben, c'est parfait. Il peut se passer beaucoup de choses dans le sommeil. Au-delà de ce qu'on sait. On n'a peut-être pas toujours besoin d'être là et d'être le témoin de toute chose qui se passe. Ça peut même être un égo trip. La méditation, ça peut être un très gros égo trip aussi, hein, de vouloir prendre le contrôle de plus en plus loin sur notre réalité, de vouloir contrôler même les eaux profondes de notre être, de vouloir tout voir, de vouloir tout dire comment ça doit être, comment il faut faire. Et donc, il faut ces deux attitudes en nous quand on médite. Cette capacité de contrôle, de rediriger l'attention, cette curiosité, cette recherche active et cette totale confiance et se lâcher, laisser être, faire confiance. Et ça est de plus en plus possible au fur et à mesure qu'on évolue déjà dans notre recherche, parce qu'on découvre, en fait, comme le dit David Hume, on découvre l'inexistence de tout un tas d'idées qu'on a à propos de nous-mêmes, le fait qu'elles sont illusoires, et elles s'effondrent comme le tunnel de verre. Et donc cette confiance grandit d'elle-même à partir du moment où ce qui nous faisait peur disparaît. Et la confiance en la vie et la confiance en la mort, c'est la même chose. Ça s'installe peu à peu. Et ça vaut la peine d'y réfléchir, de cultiver en fait cette notion que la vie est intelligente et que rien, absolument rien de moi n'existe en dehors de la vie. Absolument rien. Il n'y a pas un jeu en dehors de la vie qui a fabriqué une petite histoire qui fonctionne pas du tout et qui est séparée de la vie. Toutes les pensées, tout fait partie de la vie. Et de voir cette intelligence, d'essayer de la voir tout le temps. Tout à l'heure, je me promenais pour justement en ayant ces réflexions. Et puis je vois une magnifique fleur. En fait, très souvent, quand je prépare les discours ou quand je me promène, je me rappelle de quitter mes pensées et de revenir à un moment là. Ça fait partie de ma pratique. Même en préparant le discours, très régulièrement, je quitte mes pensées et je reviens là. Et juste au moment où je reviens là, il y avait une jolie petite fleur qui était en train de me dire bonjour avec le vent, saluer mon passage, et ça m'a touché en fait. Et je en reprenant mes pensées, je me disais mais cette beauté, cette capacité de vivre la beauté, c'est ça l'intelligence, c'est ça la, j'ai envie de dire là, qui atteste d'une intelligence. Sinon, on ne verrait que des pixels dans la fleur. C'est ce contact et cette sensation de beauté, cette capacité de percevoir la beauté, c'est le cachet de cette intelligence qui est en nous. Et c'est à cette intelligence-là qu'on doit s'en remettre. Plutôt que de porter la totalité de notre chemin spirituel sur nos épaules. Quand parfois on vient à une retraite comme ça, on peut avoir des idées à propos de nous-mêmes qui nous freinent. Qu'on n'est pas capable, ou que ça fait depuis tellement longtemps qu'on essaye et qu'on pratique la méditation, que c'est pas cette retraite-ci qui va vraiment changer quelque chose, ou que on ne le mérite pas. C'est souvent ça, on n'est pas capable ou on ne mérite pas. Pour tout un tas de raisons qu'on se donne. Et parfois, il y a même de ces raisons-là qui sont très très inconscientes, mais qui font que dans la manière dont on médite, déjà on médite comme si c'était pas possible d'arriver quelque part. Et ça bloque énormément. Et donc là, est-ce que on pourrait, pendant cette retraite, essayer de cultiver cette notion que on n'est pas tout seul, c'est pas juste nous, avec notre petite identité dont on a conscience, qui sommes en train de naviguer cette histoire, qu'il y a cette immense partie de l'iceberg. Et vous voyez, la partie de l'iceberg, elle est immense sous l'eau, donc où on ne la voit pas, on ne la connaît pas. Mais en plus, la partie sous l'eau de l'iceberg, elle est elle-même de l'eau dans un océan qui est encore beaucoup plus immense. Et tout ça, du coup, d'avoir la sensation que c'est pas juste nous, avec notre petite individualité, qui sommes ici en train de méditer, ici en train de nous libérer de nos névroses, en train d'essayer de se transformer, de trouver un peu plus d'espace et de liberté, mais qu'il y a tout un processus dont on fait partie, qui est en nous, et qui est en ce moment même en train de se produire à travers nous. Et essayer de s'en remettre à ce processus, et de faire confiance. De ne pas s'engager trop dans les critiques intérieures de « je fais mal ceci, j'arrive pas, j'ai trop de pensées, je ceci, ça marche pas ». Ça nous dépasse de beaucoup. Ça nous dépasse de beaucoup ce qu'on cherche. Ça nous dépasse de beaucoup ce qu'on est en train de faire. On a des histoires de moi et ma méditation et mon chemin spirituel et tout ça qu'on se raconte, et elles sont nécessaires, on en a besoin. Mais en réalité, je disais, c'est très difficile de savoir l'immensité de ce qu'on ignore, mais on peut savoir que c'est immense. Et c'est là. C'est pas quelque chose qui est pas là. C'est pas quelque chose qui est pas nous. Et c'est immense. Et c'est intelligent. Et c'est là, et c'est pour ça qu'on est là. Alors, une retraite de méditation allongée, c'est aussi laisser la place. On va laisser de la place. On va laisser faire. Autant que possible. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.